quand l'air sera si chaud que le feu perpétuel gagnera les forêts.
RTL.
Quand l'air sera si chaud que les déserts mangeront les plaines, que la haine embrasera les cœurs.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Quand l'air sera si chaud que la mer avalera les rivages, il nous restera ça. Un ours blanc, accroupi sur le dernier glaçon.
La curiosité est un vilain défaut.
Éric Orsenna qui parle de l'ours blanc, qui chante l'ours blanc sur un album de grand corps malade, l'ours polaire, au cœur de notre curiosité, de nos interrogations. Bonsoir Rémi Marion.
Bonsoir.
Bonsoir, heureux de vous retrouver.
C'est sympa de m'inviter.
On est très contents,
ouais,
vous êtes spécialiste des régions polaires et des ours, vous êtes conférencier, photographe, cinéaste. Alors vous l'avez peut-être entendu il n'y a pas si longtemps, Mike Horn qui est revenu en catastrophe de son périple au pôle Nord, s'est alarmé de ne pas avoir vu en 3 mois un seul ours polaire. En quelque sorte, il nous dit que les ours polaires sont en train de disparaître. Vrai ou faux?
Alors, de la façon dont il dit, déjà, moi je pense pas que ce soit très très intéressant, on va dire. Parce que donc, lui, il était en raid en tant qu'aventurier sur la banquise, donc apparemment en situation de survie, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de faire le Paris-Dakar. Moi j'ai pas vu d'ours, ça veut rien dire du tout.
Parce qu'il a pu prendre des chemins qu'on ne voit pas.
Il était de nuit, hein. Faut savoir que c'était en période nocturne dans ces régions-là. Et donc ne pas voir d'ours, sachant que les ours, il y en a 27 000 en tout et pour tout.
Au pôle Nord. Sur l'Arctique.
Et donc sur quelque chose comme 28 fois la France.
Ah oui,
donc c'est vrai que si vous en croisez pas, c'est peut-être pas non plus
un
échantillonnage tout à fait réaliste.
Oui, mais est-ce que ça veut dire, parce que c'est ça la question, est-ce qu'ils sont, oui ou non, en voie de disparition?
Alors, si on prend les chiffres donc, qui sont les chiffres officiels hein, donc, de l'IUCN, la population moyenne est donc donnée autour de 27 000 individus, avec des chiffres, les derniers qui ont été donnés, qui sont supérieurs aux précédents.
Ça progresse.
Alors non, alors ça veut pas dire que ça progresse nécessairement, peut-être qu'on met plus de moyens pour les compter.
Ah oui.
Peut-être on a plus de techniques homogènes sur une grande partie du territoire. Donc ça peut être ça, donc il faut aussi raison garder, mais il y a aussi donc une partie où on a très très peu d'informations, en particulier nord de la Sibérie, l'est du Groenland et dans ces zones-là, on n'a pas d'informations ou très très peu. Donc ça veut dire que sur près de la moitié de l'aire de répartition des ours polaires, on n'a pas d'informations précises. Et donc l'estimation actuelle est donc de 27 000 individus. Ce qui n'est pas du tout catastrophique, on va dire, sachant que l'ours polaire a eu une période où la population était aux alentours de 7 à 8 000 individus dans les années 70.
Oui, mais Rémi Marion, on dit quand même que les ours polaires sont en souffrance, s'ils ne sont pas en disparition, à cause du réchauffement climatique. Ça aussi, c'est une vérité ou c'est pas
c'est
tout à fait vrai?
C'est plus compliqué que ça. En fait, il faut bien voir qu'il y a plusieurs arctiques en fonction des courants marins. Donc, il y a des zones qui sont beaucoup plus exposées que d'autres, en particulier l'Atlantique Nord, donc la région du Svalbard ou la côte est du Groenland. On sait, par exemple, cette année, là, que la banquise est en déficit. Alors que, par exemple, le nord du Canada, il n'y a pas vraiment de problématique dans ces régions-là. Donc, il faut bien voir plusieurs régions. Et donc, ça veut dire que les populations d'ours polaires ne subissent pas non plus le réchauffement de la même façon. Donc, il peut très bien y avoir des populations qui sont plus menacés que d'autres, et puis d'autres, par exemple, au nord du Canada, où il y a quand même 2/3 de la population des ours polaires, et où cette population est beaucoup moins menacée qu'ailleurs.
Alors, on va quand même, après avoir posé comme ça la situation, on va dire, en matière de survie de l'espèce, on va quand même décrire le bonhomme, quoi, la bestiole. Poids, taille, mensuration,
ours polaire. Ouais. Alors, il faut bien voir, entre les mâles et les femelles, il y a des grosses disparités.
Ah oui.
Hein, donc, ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel très important. Un mâle reproducteur adulte, on va prendre, on va dire, une douzaine d'années, fait 450 kilos.
Ouais.
Quand il va se mettre debout, il va faire 3 mètres. Donc c'est une très très grosse bête, on a très très peur.
Et la femelle?
Et une femelle, elle va faire aux alentours de 280 kilos au maximum de l'année, parce qu'il y a aussi des grandes variations de poids tout au long de l'année, en fonction donc de l'alimentation. Et si on les prend, je dirais, à leur maximum de poids, c'est-à-dire au mois de juillet, voilà, on aura ça pour une femelle à peu près 280 kilos. Donc ça fait déjà un très très bel animal.
Et la taille? Elles sont plus petites aussi?
Ouais, elles sont un peu plus petites. Hein, donc on va dire de 2m20, 2m30
debout. Quand même.
Donc ça fait quand même une très très grosse bête.
Rémi Marion, est-ce que les ours se mettent souvent debout?
Non.
Non. À quelle occasion?
Alors, ils se mettent à debout.
Quand ils vous voient, par exemple?
Ouais, quand ils voient. Salut Rémi. Non. non, c'est pas ça. Donc, c'est. Les ours, par exemple, ont un odorat extrêmement efficace. Ils ont une vue relativement moyenne. Et donc, ils voient quelque chose ou ils sentent quelque chose. Ils ont besoin d'indices supplémentaires. Donc, là, ils vont se mettre debout pour voir ce qui se passe au loin sur la banquise, quoi. C'est vraiment ça.
Bah, tiens, justement, on va raconter comment ils chassent les ours polaires.
Et oui, allez voir. Thomas, c'est un très grand patient. On a peut-être des leçons de patience à prendre avec l'ours blanc. Reste avec nous sur RTL.
Yorick Bernison, vous êtes le premier ours blanc que je rencontre.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Je croyais que les ours blancs vivaient pour chasser et se battre.
RTL.
Je suis un ours blanc en armure.
La curiosité est un vilain défaut.
La guerre, c'est la mer dans laquelle je nage. C'est l'air que je respire.
L'adaptation extraite, l'adaptation cinématographique de cette saga signée Philippe Pullman à La Croisée des Mondes, où l'un des héros est donc un ours blanc, Yorick Bernison. Vous auriez adoré, Rémi Marion, vous qui êtes spécialiste des régions polaires et des ours, de pouvoir dialoguer avec l'un d'entre eux, j'imagine. Est-ce qu'ils se parlent? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'ils ont des codes, une façon de dialoguer, les ours?
Alors, il y a peu de vocalises, parce que les ours polaires sont en général assez solitaires. Où il y a le plus de vocalises, c'est entre les femelles et les jeunes. Hein, donc, mais c'est souvent très léger, très ténu. Ce sont des petits chuintements, des petits claquements de mâchoires, ainsi de suite. Donc, quand on entend souvent dans des films des gros grognements avec des ours polaires, c'était rajouté, c'est du bruitage. Moi, en 30 ans, j'ai dû entendre une fois, deux fois peut-être des ours polaires grogner, parce que là il y avait une agression, mais sinon c'est extrêmement rare, d'une parce qu'ils évitent les agressions, et en général ils communiquent pas parce qu'ils sont en général seuls.
Que fait l'ours polaire toute la journée? Il chasse?
Alors, il va passer beaucoup de temps à se déplacer. Hein. Les Inuits l'appellent l'éternel errant, parce qu'il est tout le temps en train de se déplacer. Il n'a pas vraiment de territoire, parce qu'il est sans cesse en train de se déplacer pour chercher des phoques, donc qui sont sa nourriture principale, et sur la banquise. Donc, la banquise, c'est quand même un univers, je dirais, sans repère, qui en plus, sans cesse en train de se déplacer, de se reconstruire, de se démolir, on va dire. Et donc, la banquise, c'est tout à fait particulier comme un univers. Donc, l'ours polaire se déplace un peu au rythme de la banquise.
Et si Denis disait tout à l'heure qu'il était patient, donc comment chasse-t-il? Racontez-nous.
Alors, il y a plusieurs méthodes de chasse en fonction de la saison. Par exemple, l'hiver, quand il attend sur la banquise, il va se mettre près d'un trou de respiration. Donc, son odorat va lui permettre de savoir qu'il y a un trou de respiration dans la banquise, donc une espèce de cheminée qui amène le phoque à venir respirer à la surface. Ouais. Et donc, l'ours, il va se poster près de ce trou, il va attendre. Et quand il va entendre un espèce de glou-glou dans la cheminée dans laquelle le phoque remonte à la surface, ben là, il va pouvoir décocher un coup de patte ou mettre sa
surprise.
Tête dedans. Surprise, voilà.
Donc, il va l'attraper. Combien des phoques comme ça par
Alors,
jour, l'ours polaire?
On peut considérer que dans une année, sachant qu'il y a des périodes d'alimentation relativement importantes qui sont plutôt au printemps, avril, mai, juin, mais sur une année, il va consommer une bonne cinquantaine de phoques sur l'année.
Mais il partage, j'imagine qu'il ramène ça peut-être dans la tanière ou pour la femelle et
pas
le petit?
Pas vraiment, Sidonie, je suis désolé. Mais les familles d'ours polaires sont plutôt des familles monoparentales, on va dire. Donc, c'est les femelles qui élèvent leurs petits, et les ours mâles, par exemple, n'interviennent absolument pas dans l'apport de nourriture.
Est-ce que les femelles apprennent à leurs petits à chasser? Est-ce que vous avez déjà assisté à ça, Rémi Marion?
Et ça, c'est fondamental. Et ces deux ans au moins de présence entre la femelle et les jeunes, c'est absolument indispensable pour que les ours polaires apprennent à devenir des ours polaires, à se protéger du vent, à passer l'hiver, à trouver des traces de phoques, enfin l'odorat où se trouvaient les phoques et tout ça. Donc c'est vraiment un apprentissage et on le voit. Moi je l'ai vu sur des femelles avec des tout petits, l'apprentissage commence dès la sortie de la tanière.
Rémi Marion, la fourrure de l'ours blanc, elle est absolument magnifique. C'est une doudoune qui lui permet de résister au froid jusqu'à combien de degrés en dessous de zéro?
Alors là, c'est pareil, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que la fourrure de l'ours polaire, c'est surtout une protection mécanique, on va dire. C'est très rêche, en fait, du poil d'ours polaire. C'est pas du tout dufteux.
C'est pas un nounours, quoi, en fait.
C'est pas du tout un nounours. C'est un poil qui ressemble, je dirais, presque à de la fibre optique, en fait, quelque chose comme ça, un peu synthétique, quoi, presque. Mais c'est vraiment une armure contre le vent, le blizzard, la glace, et ainsi de suite.
Et qu'est-ce qui le protège vraiment contre le froid, alors?
Donc, sous cette couverture de poil un peu dur, il a un poil beaucoup plus dufteux, qui est au contact de la peau, donc il va le protéger du froid, mais c'est aussi sa graisse, mais c'est aussi son métabolisme, qui fait que il fonctionne un peu comme une bouteille thermos, il a peu de fuite de calories vers l'extérieur, et donc il va gérer, je dirais, un petit peu sa perte de calories en fonction avec sa circulation sanguine, et ainsi de suite, et son déplacement. Et c'est pour ça aussi qu'un ours polaire est sans cesse en train de se déplacer à la même allure, toujours à 4 km/h, qui est son allure optimale pour la dépense d'énergie et sa température corporelle.
Et c'est un bon nageur ?
C'est un très bon nageur, parce qu'une femelle qui portait un collier émetteur a été traquée sur 600 km sans qu'elle mette le pied à terre.
Combien vous avez dit ?
600 km.
Ah, c'est énorme.
C'est gigantesque. Voilà, elle est partie avec un petit qui s'est noyé, malheureusement. Ah, oui. Mais la femelle a pu nager 600 km.
Et les ours polaires nagent pour chasser aussi, ou simplement pour se déplacer, pour chercher une zone de chasse ?
Alors, ils peuvent s'approcher, je dirais, de façon vraiment en catimini d'un... Alors là, c'est plutôt l'été ou au printemps. Ils peuvent s'approcher d'un phoque qui est en train de dormir sur un morceau de glace. Ils peuvent s'approcher à la nage et faire un peu d'apnée et surgir comme ça brutalement. ça peut arriver. Mais c'est surtout pour rejoindre la côte. Souvent, quand la glace commence à disparaître sous leurs pattes, eh ben, ils peuvent rejoindre la côte à la nage.
Rémi Marion, c'est un bonheur de vous écouter sur RTL et de partager vos aventures. Voilà, on est avec vous. Et justement, c'est l'une de vos mésaventures que vous allez nous raconter. Vous avez eu, comment dire, la mauvaise idée de... réveiller un ours polaire.
Mais c'est pas possible.
Moi, c'est mignon.
Reste avec nous sur RTL.
En SVT, le prof nous a dit qu'on n'allait pas tarder à muer et que d'autres poils allaient pousser. Mais on nous a rien dit sur l'éventualité de parler humain.
Si votre défaut, c'est la curiosité...
Je ne savais pas quoi faire. Aucun autre ours ne savait parler humain.
Sidonie Bonnec.
Alors j'ai décidé d'aller voir l'ours le plus sage du monde.
Thomas Hugues.
Le roi de l'Arctique.
Sur RTL.
Qu'est-ce qui va pas chez moi ?
Tout va très bien chez toi, Norm. Tu es juste spécial.
Avec Omar Sy qui incarne un ours dans ce film d'animation qui s'appelle Norm. Nous sommes avec...
Qui apprend le parler humain. J'adore Exactement. L'expression, c'est drôle.
Ben justement, comment se comporte Rémi Marion, vous qui êtes spécialiste des régions polaires, spécialiste de l'ours blanc, l'ours polaire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Comment ils se comportent, ces ours, face aux humains ? Vous en avez rencontré, vous en avez croisé fortuitement et peut-être pas toujours. ça se passe comment ?
Ben ça dépend, parce que les ours, aussi bien bruns que blancs d'ailleurs, ont vraiment des personnalités. Et ça, c'est très évident. Et donc, vous avez des ours très timides, et par contre, des beaucoup plus curieux, des parfois dangereux, des extravertis, enfin, tout ce qu'on veut. Donc, évidemment, nous, on ne sait pas quand on va voir un ours.
C'est pas écrit dessus.
Ouais. Et on ne connaît pas son passif non plus qu'il pu avoir aussi avec les humains. Ouais. Donc, ça, c'est aussi une vraie problématique. Donc, il faut toujours être très, très vigilant et garder, évidemment, nos distances. Mais il arrive que les ours polaires, eh bien, eux, franchissent cette distance. Et donc là, il faut vraiment être sur ses gardes et
c'est faut le driver,
entre autres, au Labrador. Non, parce que lui, ça va beaucoup l'amuser. Ils sont très joueurs, donc si on commence à courir, lui, ça va beaucoup l'exciter.
Qu'est-ce qui vous est arrivé, Rémi Marion, au
Labrador, une fois, on était avec
On est où, juste au Labrador ?
Labrador, c'est nord-est du Canada, au nord du Québec, où il y a une petite population d'ours polaires. Et là, on était dans un endroit très, très ouvert. On voyait un ours polaire, on l'a vu disparaître. On savait plus du tout où il était. Et puis, en fait, on l'a retrouvé derrière nous, à quelques mètres. À quelques mètres, je dis bien. Ouais. Et donc là, on n'avait pas le droit d'être armé parce qu'on était dans un parc national. Et là, c'est des fusées d'alarme tirées directement sur lui qui ont permis de le... Alors, ça l'a pas plus impressionné que ça. Il est parti tranquille en marchant et puis il s'est couché plus loin. Et voilà. Donc, pas plus impressionné que ça.
Ouais. Et alors, cette histoire de... Vous avez joué le réveil matin d'un ours, c'est ça ?
Alors, ça, c'est une vieille histoire hein, que j'ai beaucoup, beaucoup racontée.
Ah, mais nos auditeurs ne la connaissent pas, donc allez-y.
Et donc, je cherchais à l'époque des tanières d'ours polaires, donc avec un guide CRI qui, lui, n'avait pas vraiment l'habitude de chasser les... Enfin, de chercher les ours polaires pour les photographier, c'était plutôt pour les tuer. Et donc on a trouvé effectivement une tanière et moi je voulais photographier l'intérieur de cette tanière. Lui me dit il n'y a pas de problème, d'après les traces elle est partie, les petits aussi, pas de problème, tu peux descendre dedans, pas de souci. Et donc j'avais le nez dans le trou de la tanière et là je me dis quand même Je vais vérifier moi-même. Donc, je prends un morceau de glace, je balance le bout de glace dans la tanière et on entend « ouf » à l'intérieur de la tanière. Et donc, on est parti comme des fusées sur nos motoneiges et on s'est mis à 500 mètres et on a vu une femelle avec deux très jolis petits sortir. Bon. Donc, comme j'avais l'intention de descendre la tête la première dans ce trou, je ne serais pas là pour vous en parler.
Oh là là, c'est terrible. Ces femelles, ours, ours polaire, ours blanc, elles ont combien d'oursons dans leur vie ?
Dans leur vie ? Alors, elles en ont... c'est un peu compliqué. Ouais. Une femelle ours polaire se reproduit tous les 3 ans. Elle a environ 2 à 3 petits, mais elle va en émanciper en général qu'un seul.
Donc les autres vont rester avec elle ?
Non, les autres, ils vont mourir.
Ils vont mourir.
Ah, ils vont
c'est comme ça, Sidonie, la vie chez les ours polaires. Ouais. Voire même que la maman peut les manger, même, si elle a des besoins alimentaires.
Mais comment elle fait ce choix entre ses petits ?
Parce que c'est la survie de la femelle qui prime, parce qu'elle pourra toujours refaire des petits. Et donc, si elle a besoin alimentaire extrêmement pressant, eh bien, elle va manger le petit pour pouvoir continuer à allaiter 1 ou 2 autres petits. C'est comme ça.
Combien de temps dure la gestation d'un petit ?
Alors là, on va faire un petit peu de mathématiques.
Ouais.
L'accouplement a lieu au mois de juin, début juin.
Ah, c'est toujours la même période ?
À peu près, ouais, fin mai, début juin. C'est plus pratique pour se retrouver, se donner rendez-vous sur la banquise.
Bien sûr.
Et les naissances ont lieu vers le mois de décembre, mais la croissance de l'embryon n'est que de 55 jours. Donc là, il y a un problème.
Il y a un souci, oui.
Donc ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une implantation différée, c'est-à-dire que la croissance de l'embryon ne démarre pas juste après l'accouplement, mais ne va démarrer que quand la femelle va se mettre dans sa tanière vers le mois d'octobre. Ce qui va permettre à la femelle de mettre au monde 2, voire 3 petits, extrêmement petits, par rapport à la taille de la femelle. C'est comme si vous aviez des petites 150 grammes pour une femme. Et donc pour une femelle ours polaire, ça fait 6 à 700 grammes. Pour un petit ours polaire.
Quand on pense que ça va pour les mâles peser jusqu'à
450 kilos.
Faire 3 mètres.
Mais il n'y a que 55 jours de croissance et la femelle va les allaiter. 3 mois plus tard, ils pèsent 10 kilos.
Et on va terminer avec une image magnifique, rapidement, pardon, Rémi Marion, mais la sortie des petits, là, des oursons de la tanière, c'est l'un des meilleurs moments.
Ça, c'est un moment complètement magique parce que on attend, il fait très très froid, il fait moins 40, moins 45, et on voit le museau de la femelle, et puis après on voit un petit, deux petits qui viennent jouer, tout ça, et là c'est juste sublime. Et si la femelle nous a accepté, eh bien on peut passer des heures comme ça, et ça c'est vraiment un grand grand bonheur.
Bon, si vous avez adoré Rémi Marion comme on l'adore à la curiosité, vous pouvez aller découvrir son expo à Argelès-sur-Mer. Ce sera à partir du mois d'avril, c'est sur l'ours, l'ours polaire, et une autre expo qui va démarrer mi-juillet à Honfleur sur les glaces de l'Arctique, et puis un livre que vous publiez chez Actes Sud en avril prochain, il parlera de quoi ?
Début avril. Ovibos, donc le bœuf musqué, donc un animal que l'on connaît peu.
Oh.
J'espère qu'on viendra en reparler ici. Début avril, Ovibos, le survivant de l'Arctique.
Merci à vous, Rémi.
Merci beaucoup.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.